Vous écoutez, on lit pour vous.
Cordonnier, un métier en demande mais sans relève. Un texte de Jasmine Legendre paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir. Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d'une certaine frilosité face à la modernité, des irréductibles pratiques des métiers qui semblent sorties d'une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Dans le cadre de notre série « Métiers d'antan », aujourd'hui, le cordonnier. Sur l'avenue de Bourlamac, dans le quartier Montcalm de la ville de Québec, se dresse une cordonnerie qui se démarque des autres immeubles avoisinants par ses couleurs et sa petitesse. Les curieux qui s'approchent du commerce seront surpris d'apprendre qu'il n'est ouvert que les mercredis et les jeudis, 5 mois par année. Pourquoi? Parce que la demande est trop forte. La seule limite, c'est moi qui me l'impose. Je pourrais travailler 100 heures par semaine et ce ne serait pas suffisant, explique au Devoir le propriétaire de la cordonnerie du quartier, Frédéric Lavoie. Quand il ouvre ses portes, les clients affluent. Ce n'est pas rare qu'il passe 100 ou 125 personnes. Chaque jour d'ouverture, je peux remplir 2 à 3 semaines de travail. Une profession en perdition. C'est son oncle qui lui a transmis sa passion. Il était le cordonnier de la ville d'Amqui. J'ai commencé à travailler avec lui les soirs et les fins de semaine quand j'étais en 5e secondaire. Frédéric s'est ensuite dirigé vers la formation professionnelle en cordonnerie, autrefois offerte dans la ville de Québec. En 2011, le programme a été aboli dans les 3 organismes scolaires autorisés à l'offrir. Aucune inscription n'avait été déclarée au ministère de l'Éducation depuis 2001-2002. Frédéric constate que, depuis ses débuts, les commerces ferment et la concurrence disparaît, alors que la demande, elle, ne ralentit pas. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, je me demandais vraiment comment j'allais en vivre. Il y avait beaucoup de cordonneries à l'époque. Il fallait vraiment trouver sa niche, fait savoir celui qui se spécialise depuis dans la réparation haut de gamme. Il déplore toutefois le manque de formation et d'incitatifs gouvernementaux envers son métier. « Je suis le dernier cordonnier dans la haute ville de Québec. Le plus proche va être au centre commercial Laurier-Québec. C'est d'une tristesse assez exceptionnelle. » Un métier d'antan dans l'air du temps. Depuis quelques années, Frédéric Lavoie remarque que les jeunes sont plus nombreux à venir faire réparer leurs chaussures, par conscience écologique notamment. C'est souvent avantageux de réparer un soulier pour lequel on a dépensé une bonne somme. C'est sûr que la chaussure bon marché, on va en faire un peu moins, mentionne-t-il. Pour stimuler cette consommation responsable, Frédéric Lavoie propose qu'on abolisse les taxes sur la réparation. On a déjà payé des taxes sur la chaussure à l'achat, on veut juste la réparer. Selon lui, ce genre de mesure pourrait inciter de nouveaux cordonniers à se lancer puisque le métier serait plus valorisé. Le mentorat comme espoir pour la relève. Le métier de cordonnier ne s'apprend plus sur les bancs d'école. Même au Centre des métiers du cuir de Montréal, on n'offre pas de cours de réparation. Lorsque les gens cherchent des formations, en général, nous les envoyons directement chez les cordonniers parce qu'ils peuvent apprendre le métier en atelier, fait savoir l'adjointe à la direction et aux communications, Marie Petit. C'est le chemin professionnel qu'a suivi Philippe Pilon-Beaulac, l'artisan de la cordonnerie 3R, qui vient d'ouvrir ses portes à Trois-Rivières. Il avait commencé son apprentissage auprès du maître cordonnier Philippe Vernieuve en 2014. 10 ans plus tard, sa sœur et lui ont racheté un fonds de commerce et ont ouvert leur propre cordonnerie. Il n'y a que 3 entreprises comme la nôtre à Trois-Rivières, fait savoir Valérie Pilon-Beaulac. Il y a de la place pour les nouveaux cordonniers. La propriétaire, aussi professeure en commercialisation de la mode au Collège La Flèche, est d'avis que leur projet s'inscrit dans l'ère de la consommation responsable. Je vois des étudiants qui arrivent à la cordonnerie avec des bottes qu'ils ont payées des centaines de dollars. Ils ne veulent plus jeter, ils sont plus conscients de leur impact écologique. Même leur nom de commerce, cordonnerie 3R fait référence à la règle des 3R « réduire, réutiliser, recycler ». Frédéric Lavoie s'informe sur ces nouvelles cordonneries qui ouvrent à travers la province. Cela lui donne l'espoir d'un avenir pour sa profession. Imaginez-vous qu'il n'y a plus aucun mécanicien au Québec. Qu'est-ce qui se passe? La voiture tombe en panne, on la laisse sur le bord de la rue. Ça va créer le chaos. À petite échelle, en cordonnerie, c'est ce qu'on vit. S'il n'y a pas de relève, les chaussures vont aller aux poubelles. C'était « Cordonnier, un métier en demande mais sans relève », un texte de Jasmine Legendre paru le 10 juillet 2024 dans Le Devoir.
Le pouvoir des algues contre la crise climatique. Un texte de Mathieu Perrault paru le 9 juin 2024 dans La Presse. Quel végétal, autre que les arbres, peut atténuer les changements climatiques en se nourrissant du CO2 atmosphérique? Les algues. Au congrès de l'ACFAS, à la mi-mai 2024 à Ottawa, des chercheurs ont fait le point sur le potentiel du carbone bleu pour atténuer les changements climatiques. Les écosystèmes marins peuvent aider à stocker du carbone, explique Fanny Noisette, biologiste à l'Université du Québec à Rimouski et spécialiste de l'écophysiologie des algues de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Les grandes algues capturent le CO2 de l'eau. Comme elles peuvent atteindre plusieurs mètres, elles accumulent du carbone rapidement. La baisse du taux de CO2 dans la mer à cause de la croissance des algues fait en sorte que du CO2 atmosphérique est dissous dans la mer en remplacement parce que les taux de CO2 de l'atmosphère et de la mer sont en équilibre constant. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement de la planète. Réchauffement de l'eau. Est-ce que l'augmentation de la température et la baisse du taux d'oxygène dans le golfe posent problème? La désoxygénation survient dans les couches profondes, alors que les algues se trouvent là où il y a de la lumière, dans les 40 premiers mètres. Les épisodes de réchauffement, par contre, peuvent affecter leur croissance. La réduction de la couverture de glace en hiver est un problème plus immédiat. Quand il y a moins de glace, les côtes sont plus exposées aux tempêtes hivernales qui peuvent arracher les algues, selon Mme Noisette. On essaie de savoir ce qui se passe quand les algues sont arrachées, dit-elle. C'est une grande question. Est-ce qu'elles vont couler dans le fond de l'eau, donc stocker le carbone dans les sédiments, ou est-ce qu'elles vont s'échouer sur le rivage et rester là pendant un cycle de marée? Dans ce dernier cas de figure, les algues pourraient se décomposer et libérer le carbone accumulé quand elles ont absorbé le CO2 de l'eau. Vers un inventaire canadien. Marcel Velasquez, un biologiste de l'Université Laval qui travaille sur les algues arctiques, planche de son côté sur un inventaire canadien des organismes marins capables de stocker le carbone. Il y a en Arctique une grande quantité et diversité de forêts laminaires qui ne sont pas étudiées. Ces forêts laminaires sont composées de grandes algues. M. Velasquez veut élaborer un modèle permettant de prévoir la réaction des forêts de laminaires arctiques au changement climatique, notamment au niveau de leur croissance et donc du stockage de carbone. Il y a beaucoup de données de ce type sur les écosystèmes terrestres, mais très peu sur les écosystèmes marins, dit M. Velasquez. C'est important pour le Canada parce que l'Arctique se réchauffe 5 fois plus vite que le reste de la planète. Pour compliquer l'analyse, la fonte des glaces en Arctique libérera des sédiments, source de nutriments pour les algues. Avant de s'intéresser à l'Arctique, le biologiste d'origine chilienne a travaillé sur les algues antarctiques en tant que plongeur scientifique. Récif artificiel. Est-il possible de favoriser la croissance des algues côtières pour qu'elles absorbent davantage de CO2 de l'eau de mer? Dans les océans, des essais de fertilisation avec du fer, entre autres minéraux, pour favoriser la croissance des algues ont eu lieu. Dans le Golfe, il n'y a pas de facteur limitant la croissance. Il ne manque pas de nutriments, dit Madame Noisette. Mais on peut favoriser leur croissance avec des récifs artificiels. Il y a des essais de ce type depuis longtemps. Ces récifs artificiels, notamment en Gaspésie et à Sept-Îles, ont servi à l'étude du homard ou, alors, ont été construits comme une compensation à des perturbations côtières liées à de la construction. Selon la Convention de Ramsar, qui surveille les milieux humides depuis 1971, le carbone bleu est particulièrement stable, pouvant être stocké dans les sédiments marins pendant des milliers d'années. Les herbiers marins, les forêts d'algues comme celles qu'étudient Mme Noisette et M. Velasquez, peuvent stocker 512 tonnes de carbone par hectare, un chiffre semblable aux forêts terrestres. Le carbone bleu, qui comprend les forêts de mangroves, est responsable de la moitié du stockage de carbone des sédiments marins, même s'il n'est présent que dans 2% de la superficie des océans. Selon la Convention de Ramsar, la dégradation des écosystèmes de carbone bleu est responsable chaque année d'un milliard de tonnes de CO2, soit 20% des émissions liées à la déforestation terrestre. Les pertes des herbiers marins sont particulièrement importantes, étant passées de 1% à 7% par année entre 1940 et 2020. Pour cette raison, un récent rapport de RBC estimait l'an dernier à 130 millions Canadiens par année le potentiel en crédit carbone de la restauration des herbiers marins canadiens qui ont perdu 90 % de leur superficie depuis un siècle. En aucun cas, le stockage de carbone par les écosystèmes marins ne constitue la solution à la surproduction de CO2 dans l'atmosphère, tient toutefois à préciser Madame Noisette. C'était « Le pouvoir des algues contre la crise climatique », un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 juin 2024 dans La Presse.
Lire à voix haute avec son enfant, le meilleur conseil pour développer le vocabulaire et l'amour de la lecture. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 4 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Lire à voix haute à son enfant, c'est bien, mais lire à voix haute avec son enfant, c'est encore mieux. Interagir, parler du livre, élaborer des scénarios possibles, autant de façons d'engager l'enfant dans l'histoire et le contenu du livre. En marge du Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'autrice d'albums pour enfants, Martine Harpin, est venue faire la lecture aux enfants de prématernelle à la deuxième année dans le cadre d'un petit, voire grand, qui a eu lieu le lundi 27 mai au centre Belle Alliance à Summerside. Pendant que les enfants étaient assemblés pour vivre les aventures de Philémon, l'ornithorynque, les parents avaient leur propre petit, voire grand, avec une animation fournie par Diane Bernier-Ouellette à propos de l'importance et des bienfaits de la lecture à voix haute avec l'enfant. Dans le milieu scolaire, on s'inquiète de plus en plus des effets des écrans, téléphones et tablettes, sur le développement du cerveau des jeunes enfants. Ça affecte, entre autres, la concentration. La lecture à haute voix avec son enfant, au contraire, favorise la concentration, la curiosité, le vocabulaire, la connexion avec le parent et l'imagination, dit Diane Ouellette, spécialiste en littératie. lire à son enfant et lire avec son enfant. Diane Ouellet prodigue deux conseils aux parents pour améliorer l'expérience de la lecture à haute voix avec leurs enfants. Conseil numéro 1. Parlez du livre, des personnages, décrivez les images ensemble, posez des questions, parlez des émotions, imaginez les prochaines actions, etc. Conseil numéro 2. Élevez le langage. Lorsque vous lisez avec votre enfant, ajoutez quelques mots plus précis à certains moments du livre. Oui, c'est un chien, c'est un dalmatien. Et regarde, il creuse un trou avec son museau. Je me demande pourquoi. Ajoutez et fournir des informations qui ne sont pas forcément écrites dans l'histoire aide à développer le vocabulaire, mais fait aussi de cette version augmentée une version qui n'existe nulle part ailleurs. Dans les familles exogames, la lecture à haute voix en anglais avec le parent anglophone permet elle aussi de développer le vocabulaire, mais moins qu'en français. En anglais, la langue des livres est passablement la même que la langue parlée. En français, ce n'est pas le cas. La langue écrite est plus littéraire que la langue parlée. Il y a de grandes différences. C'est donc important d'exposer les jeunes à ce niveau de langue et la meilleure manière de le faire est par les livres, dit Diane Bernier-Ouellet, citant la recherche. C'est important de lire des histoires, mais lire toutes les sortes de livres est encore mieux. Les recherches disent que les enfants qui ont de bonnes connaissances sur plusieurs choses comprennent mieux ce qu'ils lisent. Trouvez ce qui intéresse votre enfant. S'il aime les araignées, achetez-lui un livre sur les araignées. S'il en veut 100, achetez-en 100, dit-elle. Les parents dans la salle étaient surtout francophones, mais également anglophones, si bien que les informations ont été transmises aussi bien en anglais qu'en français. Chaque famille a reçu un chèque cadeau à dépenser au Salon du livre, qui allait commencer quelques jours plus tard. Avec l'été et les vacances qui approchent, Diane Ouellet a profité de l'occasion pour inciter les parents à multiplier les occasions de parler français avec les enfants. Même durant l'année scolaire, le temps passé à l'école ne suffit pas pour assurer un bon niveau de bilinguisme. Pendant l'été, pour certains, c'est encore plus difficile de trouver des occasions de parler français. C'est dans cette optique que la Fédération des parents publie, au début de chaque été, un calendrier des activités à faire en français dans la province. Également, le site web de la Fédération des parents est rempli de ressources classées selon les âges pour augmenter la routine francophone des enfants pendant l'été et à longueur d'année. C'était « Lire à voix haute avec son enfant, le meilleur conseil pour développer le vocabulaire et l'amour de la lecture ». Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 4 juin 2024 dans « La voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard ».
Le transport en commun à la demande s'accélère en région. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 25 juin 2024 dans Le Devoir. Le transport en commun dit « à la demande » gagne en popularité au Québec. Après Gatineau, Richelieu et la périphérie montréalaise, c'est au tour du Saguenay d'adopter cette façon différente de se déplacer en ville. Le principe est assez simple. On enregistre le trajet que l'on veut faire sur une application et l'autobus passe vous chercher à l'arrêt le plus près de chez vous à l'heure demandée. Puisque vos voisins font la même chose, un algorithme optimise le trajet de l'autobus au gré des commandes. Cette approche à mi-chemin entre le taxi et le bus traditionnel entrera officiellement dans 3 quartiers du Saguenay d'ici 2025, a appris Le Devoir. Frédéric Michel, directeur général de la Société de transport du Saguenay, STS, confirme les bonifications à venir. Les quartiers de l'Abbé, de Jonquière et de Chicoutimi-Nord seront desservis grâce à ces autobus sans itinéraire, sans ligne fixe, sans horaire. On se promenait avec des autobus sans personne à l'intérieur. Ça a des coûts, des impacts environnementaux aussi. Ça a motivé notre transition, explique-t-il. Son équipe transformera les lignes fixes en lignes souples, principalement les soirs et les fins de semaine. Les matins de semaine, il y a trop d'achalandage, alors des lignes fixes continueront de transporter des clients. Le transport à la demande doit forcément coexister avec du transport classique, car c'est un modèle qui fonctionne quand l'achalandage est bas. Au-delà de 10 passagers en même temps dans l'autobus, le système ne peut plus absorber la demande et les délais deviennent de moins en moins attractifs. On peut réserver 25 minutes à l'avance, 7 jours à l'avance, autant de départs qu'on souhaite. On choisit soit l'heure d'arrivée, soit l'heure de départ. On ne peut pas choisir les deux en même temps, explique Frédéric Michel. Les usagers répondront présents, croit la STS. Un projet pilote instauré en 2023 dans le secteur de la baie a provoqué une hausse d'achalandage d'entre 3% et 11% par mois. C'était un secteur en décroissance depuis ces années avant la pandémie, note M. Michel. L'économie pour la STS est aussi substantielle. Il en coûte 11,5% moins cher pour faire fonctionner essentiellement le même service. Deux nouvelles villes dans la couronne de Montréal. La STS n'est pas la seule à confirmer ces temps-ci l'implantation du service. Exo a indiqué en début d'année que ses autobus au trajet flexible deviendraient permanents à Belle-Oeil et à McMasterville. Un projet pilote semblable est aussi en cours à Terrebonne et la décision de le pérenniser ou non sera connue en 2025. Le succès semble au rendez-vous puisque Exo prévoit étendre le « à la demande » à deux nouvelles villes, une sur la rive sud et une autre sur la rive nord, dans les mois qui viennent. Ça fait partie de notre stratégie de croissance, confirme Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive de l'expérience client pour Exo. Exo a supprimé ses lignes fixes à Belle-Oeil pour implanter 5 autobus à la demande, tandis qu'à Terrebonne, l'entreprise a plutôt rajouté des voitures en plus de l'offre de bus déjà en place. Là, jusqu'à 3 berlines à la fois comblent le premier et le dernier kilomètre des trajets. Ça permet un rabattement vers les gares, vers les trains. Ça vient améliorer l'accès aux stationnements incitatifs ou des points d'attrait. L'entreprise dit avoir élargi son bassin de clients grâce à ce service. Près de 40% des Belle-Oeillois adeptes du service à la demande n'avaient auparavant jamais utilisé le transport en commun. Avec le même budget d'exploitation, on dessert 300% plus d'achalandage, ajoute la représentante d'Exo. Gatineau a fait de même depuis l'implantation d'un premier taxi collectif en juin 2021. Une deuxième voiture circule maintenant dans les secteurs éloignés de Masson et de Buckingham. Encore là, les taxis collectifs ne circulent que localement dans ces quartiers aux allures de village, explique José Lafleur, responsable des affaires publiques du STO. C'est un secteur un peu enclavé. Le système traditionnel est plus onéreux et plus difficile à offrir. Près de 18 820 déplacements ont ainsi été effectués en 3 ans, soit une moyenne de 17 par jour. Environ la moitié de ces déplacements étaient partagés entre plusieurs usagers. Ce n'est pas un service porte-à-porte, ce n'est pas un taxi. Ça demeure un transport en commun, souligne José Lafleur. Il faut toujours passer par les autobus à horaire fixe pour rejoindre le centre-ville. N'empêche, c'est là pour de bon. Pas toujours facile de s'adapter. La formule n'a pas collé partout. Trois-Rivières n'a pas reconduit son projet pilote en 2022 en justifiant que cela n'avait pas contribué de manière significative à l'augmentation de l'achalandage. La clientèle aînée a aussi du mal à s'adapter à la technologie. Saguenay a corrigé cette lacune en installant des téléphones fixes à des arrêts clés, et a ouvert une ligne directe permettant de commander son autobus auprès d'un agent. Près de 40% des usagers saguenéens du transport à la demande passent par le téléphone classique, contre 60% par l'application. Il y a aussi le problème des déréservations, remarque Marie-Hélène Cloutier. Certains se désistent sans en avertir la compagnie de transport. Puisque l'algorithme est optimisé en fonction de tous les usagers, tout parcours perd alors en efficacité. Le principal défaut du service à la demande ne survient que s'il est trop populaire, observe Jean-Philippe Meloche, expert en transport urbain à l'Université de Montréal. Le réseau sature si la demande est trop forte. Généralement, les plaintes de ces systèmes viennent parce que les temps d'attente sont trop longs, dit-il. Inversement, le principal avantage du transport à la demande, c'est le coût. Ça coûte vraiment moins cher, indique l'expert en entrevue. Pour se déplacer à l'intérieur d'une petite municipalité en région, la formule est tout indiquée. Ça permet d'étendre la carte du service aux endroits pas ou peu desservis. Plus le volume est petit, plus c'est pertinent. Uber en commun. Le géant du transport Uber s'est récemment lancé dans le transport en commun, à la demande. Son service Uber Shuttle a fait son entrée en mai dernier aux États-Unis après des essais au Caire et à Delhi. Cette année, les citoyens de trois villes des États-Unis, Chicago, Charlotte et Pittsburgh, peuvent embarquer dans ces taxibus à la demande. Ce service est surtout conçu pour pallier le manque de transport vers les aéroports ou à la sortie des grands concerts dans les arénas. Ces courses en commun permettent tout de même d'économiser en moyenne 25% sur le prix d'un trajet, selon la compagnie. Une ville canadienne est allée plus loin, en déléguant tout son système de transport à Uber. La ville ontarienne d'Innisfil a mandaté en 2019 l'entreprise pour assurer un transport en commun à ses quelques 40 000 habitants. Un taxi vient vous chercher pour 4 $, 5 $ ou 6 $, et la ville se charge de payer la différence sur la facture. Financer lourdement le transport en commun, qu'il soit privé ou public, est l'apanage de toutes les municipalités, note Jean-Philippe Meloche. Les réseaux des petites communautés sont déjà financés dans une proportion de 80% à 90% par les deniers publics. C'était « Le transport en commun à la demande s'accélère en région », un texte de Jean-Louis Bordelot paru le 25 juin 2024 dans Le Devoir.